Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Les Antipodes.
Bonsoir, vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange, épisode 3. Et oui, c'est déjà le troisième épisode qu'on enregistre ensemble sur Twitch. Et même le quatrième d'ailleurs, si on compte l'épisode 0. Et pour cette fois, je ne suis pas seul, j'ai le plaisir d'accueillir Xara Molly en co-animatrice avec moi. Bon, salut Xara, tu vas bien ?
Oui, ça va super bien, toi ?
Bah, ça va très bien. Alors Xara, t'es auditrice d'Avant d'aller dormir et on se connaît en fait parce que tu t'es inscrite sur le Discord il y a 2 ans, 2 ans et demi d'ailleurs, faut pas l'oublier.
Déjà.
Ouais, et depuis t'es devenue une super modératrice, une inquisitrice d'ailleurs, on appelle ça Avant d'aller dormir. et c'est aussi grâce à toi que j'ai connu quelques podcasts québécois, dont Captive, Dérive, dont t'avais parlé d'ailleurs avec Clégo dans un épisode.
Oui. Exactement.
Est-ce que, bon, j'ai déjà fait une petite présentation, mais est-ce que il y a d'autres choses à dire que j'aurais pu omettre ?
Ben, je suis une fan finie de true crime, d'horreur, d'histoires mystérieuses. C'est ce qui fait que, j'imagine, on est devenus amis au fil du temps et que c'est super plaisant de discuter avec tous les adados sur le Discord.
Ben ouais.
Sinon, j'imagine que vous reconnaissez mon accent. Je viens du Québec. Je vis au Québec et je viens du Québec. Donc, je vais essayer de parler assez un peu lentement, mais sinon, on mettra des sous-titres.
Non, mais c'est très bien. Et je vois d'ailleurs dans le chat que les gens kiffent l'accent. Donc, c'est parfait.
Parfait. Heureuse de pouvoir vous divertir avec mon accent.
Et tu vas nous parler de quoi ce soir?
Ce soir, j'ai 2 histoires pour vous. Donc, la première histoire que j'ai a rapport avec un peintre qui serait décédé dans des circonstances mystérieuses.
Okay.
Et la deuxième histoire parle d'une île où on aurait retrouvé un trésor et on ne sait pas trop de quelle nature est le trésor et pourquoi autant d'intérêt autour de ce trésor.
Ok, ça a l'air cool ça.
Et toi, Luc, de quoi tu vas me parler?
Moi, de mon côté, je vais parler de l'affaire Eric Kallers. C'est un homme qui a été tué devant chez lui sans que personne ne remarque rien. Il y a encore pas mal de mystères autour de cette affaire qui méritent qu'on s'y attarde. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Et on a aussi préparé chacun de notre côté un petit sujet qu'on fera en after show pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Puis voilà, je crois qu'on va pouvoir y aller. C'est toi qui vas commencer comme t'as 2 sujets.
Ça me fait plaisir de commencer. En fait, les 2 histoires que je vous présente aujourd'hui sont en lien avec le Canada. C'est 2 histoires qui se sont passées ici au Canada. Okay. Je me disais que ça allait bien toucher l'auditoire européen. Toujours beaucoup d'intérêt autour de notre continent. Donc, l'histoire de ce soir se passe durant l'été 1917.
Okay.
On a un peintre qui s'appelle Tom Thompson, drôle de nom, qui est décédé, en fait, alors qu'il est allé en canot se promener dans les bois. Oui, parce que les bois peuvent avoir des rivières, là, c'est une rivière dans les bois, là, finalement. Et on a retrouvé le canot, mais on n'a jamais retrouvé le corps de Tom Thompson. Et le coroner aurait décrété que c'était une noyade accidentelle, mais ce n'est peut-être pas la véritable cause de la mort. Est-ce qu'on veut plus de détails sur le contexte mystérieux de cette mort?
Ah ben, clairement. Donc là, tu es en train de me dire que ils ont retrouvé le canoë, ils ont retrouvé le corps.
Exact.
Et ils ont déduit d'une noyade juste avec ça, en fait.
Ouais, exactement.
Ok, ça marche.
Bon, je vous mets un peu en contexte. Là. Tom Thompson, c'est un des peintres canadiens les plus influents du 20e siècle. Il a été vu vivant pour la dernière fois le 8 juillet 1917, alors qu'il est parti avec son canot dans une excursion de pêche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Tom Thompson, lui, allait souvent dans les bois, dans la petite rivière, parce qu'il aimait bien aller faire de la peinture dans la nature. Et il était très habitué de faire ça. Il prenait son canot, son kit de peinture,
okay.
Partait, et puis il allait faire la peinture dans le bois. Donc, Bon, il connaissait bien la région, il a séjourné à plusieurs reprises. Il a aussi travaillé dans le parc comme garde-feu. Il a été guide pour des parties de pêche, puis évidemment pour peindre. Donc, après son départ, pas de son, pas d'image, on ne retrouve pas, il ne revient pas. Son canot vide a été repéré, il flottait non loin du quai. Donc, il n'était pas super loin.
OK.
Ah, je dis qu'il n'a pas retrouvé le corps. Ils ont retrouvé le corps, mais vraiment longtemps après.
Ah, ils ont retrouvé le corps quand même.
Okay. Oui, mais pas sur le coup. Donc, ça a pris un certain temps avant qu'ils retrouvent le corps. Puis, ce qui est ironique, c'est que ça a pris... Il a fallu qu'il meure pour que ses œuvres soient reconnues à leur juste valeur.
Oui, parce que tu dis que c'est un peintre ultra influent, en fait, du siècle oui. dernier, du 20e siècle, c'est ça?
Exactement.
Mais j'en ai jamais entendu parler.
Hein, on s'entend, là, c'est un peintre canadien. Déjà, nos peintres sont un petit peu moins connus que... c'est pas les grands peintres de la Renaissance, là. Mais ça reste que ses peintures... Est-ce qu'on dit ça, des peintures? Ses œuvres?
Oui, voilà. Des peintures, oui.
Ses toiles, ses œuvres,
ouais.
Sont exposées dans plusieurs galeries d'art là, au travers du Canada, dont dans des édifices publics, notamment des écoles, des édifices parlementaires. Puis il y a toujours une foule de visiteurs parce qu'il y a comme un aura de mystère autour de sa mort.
C'est peut-être ça aussi c'est qui l'a fait connaître tout ce mystère, en fait.
Ça se peut très bien. Là, en fait, il y a une de ses toiles qui a été vendue plus $1 million aux enchères récemment. Donc en fait, il s'inspirait beaucoup de la nature. C'est justement pour... ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure, là. Il allait souvent seul, en canot, dans la nature pour peindre. Puis les thèmes de ses peintures, c'est généralement autour de nature morte, mais aussi tout ce qui est... en fait, ce qui se passait au Canada dans ce temps-là, c'est qu'il y avait énormément de coupes d'arbres pour l'électricité, puis aussi pour créer des... Parce que, bon, le Canada, c'est grand, hein? Il y a beaucoup de forêts, puis il faut détruire des forêts pour pouvoir faire du papier, pour pouvoir créer des villes. Donc, il y avait énormément de transformations là, du territoire dans ce temps-là. Il a fait plein d'œuvres à propos de ça, là, des coupes à blanc qu'on appelle là, par chez nous. Donc, ce qui est mystérieux, c'est qu'on ne sait toujours pas la façon dont il est réellement mort. On ne sait pas non plus l'identité de la personne qui a découvert son corps, parce que ce n'est pas écrit dans les rapports. On ne sait pas non plus dans quel état il se trouvait, puis même on ne sait pas où il a été inhumé. On sait juste qu'il est mort, en fait.
Ah oui?
Dans les archives, il n'y a rien.
C'est en quelle année?
1917.
OK.
C'est quand même surprenant, sachant qu'il y a des archives de trucs par chez vous qui datent de bien avant. Donc, il y en a qui vont dire que c'est un accident. Il y en a qui vont dire que c'est une malchance. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il s'est peut-être suicidé. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est un acte criminel, peut-être. Oh, là, ça s'en vient un peu excitant, là, qui pourrait résulter d'un conflit au sujet d'une dette possible. Ça se peut que ça soit une histoire d'amour ou des opinions sur l'effort de guerre, parce qu'en fait, 1917, on est en plein dans la Première Guerre. Puis, les Canadiens ont été dépêchés plus tard, disons, sur les lieux des différentes batailles, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient contre envoyer des Canadiens à la guerre, puis il y en a qui étaient pour. Donc, il y avait des divergences d'opinions assez importantes à propos de ça. Puis en fait, il y a un autre mystère qui vient par-dessus, c'est qu'on ne sait pas vraiment s'il est encore où il a été enterré.
C'est fou ça, en fait, qu'il n'y ait aucune info.
Non, il n'y a absolument aucune info. C'est quand même spécial là, que quelqu'un meure, quelqu'un d'influent. Il y a eu une enquête, mais on ne retrouve pas les documents. Absolument pas. Donc, il y a toutes sortes de gens qui se posent énormément de questions, puis ça l'a suscité beaucoup la curiosité de ses proches, aussi de la sphère artistique, comment ça se fait qu'il est disparu comme ça. Il y a eu énormément de gens qui se sont proposés pour investiguer ce cas-là, pour essayer de trouver qu'est-ce qui aurait pu se passer par rapport à sa disparition, parce que, il y a des choses qui font du sens, puis il y a des choses qui font pas de sens. Par exemple, il y a très peu de chances qu'il se soit suicidé, parce que les gens autour de lui ont été sollicité pour discuter de sa vie, ses problèmes potentiels, tout ça. Puis il semblait pas avoir rien par rapport à ça. Ça peut être aussi quelque chose de super plate, là, genre il s'est fait manger par un ours.
C'est vrai qu'on est au Québec.
Oui. Mais en fait, non. On est en Ontario.
Ah,
j'ai oublié de dire. On est en Ontario. Mais L'Ontario, pour ceux qui savent pas, c'est la province qui est juste à côté du Québec, à la gauche du Québec sur la carte. Mais ça, c'est un coin qui ressemble énormément au Québec, donc ça se pourrait. Peut-être que ça soit un ours. C'est ça qui se passe aussi, c'est que même si on avait voulu faire d'autres enquêtes à propos de ça ou aller explorer davantage le lac où il est décédé, il y a tellement eu d'exploitation massive des forêts que l'environnement n'est plus du tout le même. Même si on retournait sur les lieux aujourd'hui, on essayait de deviner qu'est-ce qui a pu se passer. Malheureusement, c'est pas possible de le faire, là.
Il y a Voleur de ciseaux dans le chat qui dit que le suicide, ça prend aussi beaucoup de familles et d'entourage par surprise, malheureusement.
Ça se peut très bien. Puis j'ai le feeling qu'en 1917, peut-être que les gens étaient un peu moins sensibilisés au suicide. Je sais pas. C'est une bonne théorie, effectivement. Ça se pourrait.
Il n'y avait pas d'outline à l'époque, hein, quand t'allais mal.
Non, exactement. C'était un peu difficile. Par contre, c'est sûr que lui, il chassait aussi, il pêchait. Est-ce que ça aurait pu être une flèche perdue? Est-ce que ça aurait pu être un braconnier? Est-ce que ça aurait pu... un braconnier, par exemple, qui serait prêt à n'importe quoi pour cacher ses actes illégaux.
Oui.
Il s'est peut-être fait prendre au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça, c'est quelque chose qui se peut.
Oui, il a peut-être vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir.
Peut-être, exactement. Puis, tu sais, c'est un emplacement qui est assez isolé. Est-ce que ça peut être des autochtones? C'est au Canada, il y a énormément de populations autochtones, puis il y en avait encore plus. Plus on recule dans le temps, plus il y en avait. Donc, comme c'est un endroit très isolé dans la forêt, on ne sait pas, peut-être qu'il a voulu aussi disparaître pour échapper à l'enrôlement militaire. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vraiment mort?
Il avait l'âge requis, en fait?
Oui.
Ah, d'accord.
Exactement. Il est né en 1877. Donc, d'accord. Si on fait le calcul, il avait comme 40 ans.
OK. Il y a Striker qui demande dans le chat si c'est le premier cas de disparition noyade dans cette forêt.
Il n'y a pas d'autres cas recensés de noyade dans cette forêt.
OK.
Ouais. C'est sûr que c'est un lac. C'est un lac, c'est tranquille. Donc, théoriquement, il n'y a pas tant de danger, à moins qu'il se soit passé quelque chose, là. Mais ce n'est pas un environnement où, par exemple, il y aurait des vagues ou des animaux marins, nécessairement, là. Disons, l'ours en question. Il aurait quand même fallu que l'ours se rende en plein milieu du lac, là.
Oui, parce que il a vraiment été retrouvé en plein milieu du lac, quoi.
Oui, flottant, la face dans l'eau.
Ouais, après, comme dit Voleur de ciseaux, un accident est vite arrivé, en fait. Hein, et t'as personne.
Un accident est vite arrivé.
T'as personne pour qui contacter. Et oui, effectivement, Michael, il n'y avait pas de portable pour appeler les secours en 1907, quoi.
1917, mais 1917. Quand même pas. Non, exact. J'ai peut-être d'autres indices à vous donner.
Ouais.
En 1917, là, il commençait à avoir un petit peu de reconnaissance de la part du milieu artistique par rapport à ses œuvres. Il était dans cette branche-là depuis 1905. Puis, il y a certains mécènes qui ont décidé de, disons, encadrer son art pour vendre des toiles au gouvernement pour mettre dans les différents édifices gouvernementaux. Puis il commençait à recevoir des critiques très positives par rapport à ses œuvres à ce moment-là, en 1917. Puis il semblait vraiment sur le point de passer au niveau suivant, comme ouais. On dit, dans sa carrière. C'est étrange parce que presque immédiatement après sa mort, il y a des amis proches de la communauté qui se sont regroupés et qui ont parti ce qu'on appelle le groupe des sept. Et ce groupe-là a suscité énormément d'intérêt. C'était comme un espèce de collectif là, artistique. Puis ça, c'est quand même connu. Le groupe des sept, là, c'est comme si peut-être quelqu'un aurait voulu prendre la popularité à sa place, le tasser. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec le groupe des sept? C'est assez difficile à dire. Il y a tellement de choses qui sont plausibles. Puis on a toujours absolument aucun indice. Puis en fait, je leur dis, on sait même pas s'il est enterré ou il devrait être enterré.
Et est-ce qu'on sait si quelqu'un a profité en fait de cette mort au final?
C'est une excellente question. Je suis pas allée jusque-là dans ma recherche parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce mystère-là fait partie d'un site qui s'appelle greatcanadianmysteries.ca.
OK.
J'ai sorti mon meilleur anglais pour vous. C'est un site où on peut retrouver des mystères historiques avec toutes les données au complet auxquelles les historiens ont accès. Puis vous-même, en tant que fan du Rendez-vous de l'étrange, vous pouvez vous rendre sur le site puis aller lire toutes les correspondances qui sont au dossier, tous les indices qu'il y a. Vous pouvez aussi rechercher, lire les différentes hypothèses. Vous pouvez même donner vos propres hypothèses à partir de votre lecture. Donc, on vous mettra le lien peut-être éventuellement.
Pas de souci, on le mettra dans la description du podcast. Mais c'est très intéressant en tout cas. Hein.
Donc c'est vraiment cool, mais s'il y a du matériel pour, je veux dire, faire de la recherche pendant des mois là, sur le site. Donc j'ai lu les différentes, disons, hypothèses. Je suis pas encore certaine de bien comprendre qui aurait pu lui en vouloir, mais en même temps, des fois, les jeux d'influence, surtout dans le milieu où ça touche un peu la politique, on sait jamais. Qu'est-ce que t'en penses?
Malheureusement, je pense qu'on saura jamais en fait réellement ce qui s'est passé parce que c'était quand même il y a plus de 100 ans.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que c'est quand même très bizarre. Et après, moi, je suis plus, je sais pas, je le sens en mode accident. Après, est-ce que c'était un lac Non, c'est un lac, donc il y a pas de,
ouais.
Y a pas de vague, il y a pas de.
Non.
Ouais, c'est ça qui est. Je sais pas. Franchement.
C'est vraiment bizarre.
Il était en train de pêcher
ouais.
Au plein milieu d'un lac.
Théoriquement, c'est ce que. En fait. C'est ça le truc. Moi, c'est là où je me pose des questions. Parce que c'est ce qu'il a dit qu'il allait faire.
Ouais.
Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il est allé faire?
Mm.
Moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec... Ça se peut très bien qu'il se sauvait de la conscription.
Ah, toi, tu pencherais vers cette hypothèse.
Ouais.
Stryker demande s'il y a eu une autopsie. Et si c'est le cas, je présume qu'il n'y a aucune trace de ce rapport. Bah oui, on a perdu toutes les traces, en fait.
Ouais, on sait qu'il y a eu une enquête du coroner. Mm. Mais il manque des morceaux. Clairement, dans le dossier.
Et Charline qui théorise dans le chat, et si un gros poisson lui avait fait perdre son équilibre sur son bateau?
Peut-être. Je sais pas, Charline, à quel point il y a des gros poissons dans les lacs d'Ontario.
Mm.
C'est quand même pas le Loch Ness.
Ouais, voilà.
Il y a des truites. mais sinon, je sais pas. Mais ça se peut. Mais il n'y a pas eu non plus de traces par rapport à des grosses bêtes particulièrement.
Bah, surtout que si le canoë était en bon état... Et que tu tombes à côté, tu vois, c'est un lac, c'est assez calme.
Ouais.
Sauf, à la rigueur, s'il ne sait pas nager, mais je suppose qu'il savait nager. Sinon, il ne pêcherait pas seul.
Ouais, c'est bien curieux tout ça. Puis, il y a de la recherche à faire, là, si vous avez du temps. Cette mort-là vous intrigue, vous pouvez aller lire, là, comme je disais, les... différents témoignages des personnes qui ont été interrogées, puis les lettres, les communiqués qui ont été faites, puis les différentes personnes qui se sont penchées sur le dossier sur le site canadianmysteries.ca.
Ok.
Avec mon meilleur anglais.
Je pense que vu qu'on n'a aucun élément, on a tellement envie de théoriser et de trouver des trucs super ouf, alors qu'en fait, c'était peut-être juste un accident, il est peut-être tombé, il s'est blessé, puis il est mort tout seul, quoi.
Ça se peut. Puis, en fait, je me dis, c'est peut-être juste parce qu'une fois, quelqu'un a dit « mort mystérieuse », tout ça a propulsé sa carrière, tout ça a... Mm. Tu sais, puis c'est comme un cercle vicieux. Dès qu'on associe une mort mystérieuse à quelqu'un, là, sa carrière prend de l'ampleur. Puis là, comme sa carrière prend de l'ampleur, ben c'est comme... Est-ce que ça devient une source possible de meurtre?
Ouais.
Donc, c'est comme... C'est peut-être juste un gros mélange comme ça de trucs... difficile à saisir, mais bref, moi, ça m'a bien intriguée, puis il y a un livre qui existe, qui a été écrit en 2016, qui s'appelle « The Many Deaths of Tom Thompson, Separating Fact from Fiction », je vais traduire, « Les multiples morts de Tom Thompson, séparer les faits de la fiction », que pour ceux qui voudront, j'ai eu envie de l'acheter, en fait.
Ok. Je me demande comment, 100 ans plus tard, ils ont pu faire un livre alors qu'il y avait très, 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 très peu d'éléments, pour pas dire aucun.
D'après moi, ils ont repris les éléments d'enquête, les différentes entrevues qu'ils ont faites avec toutes les personnes, les différentes hypothèses. J'imagine qu'ils ont repris le contenu du site Canadian Mysteries, puis qu'ils ont fait un.
Ils ont brodé un peu.
Ils ont essayé d'apporter plus loin le truc. Il y a énormément d'historiens qui sont penchés là-dessus puis qui essaient de faire le tri.
Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il n'y a aucune théorie paranormale, tu vois. Des ovnis ou des choses comme ça.
on aurait pu le dire nous aussi, mais en même temps, tu sais, la nature, c'est dangereux.
Mm.
Bon, disons, le canot n'a pas été retrouvé brûlé, donc je me dis non, c'est pas un éclair. Bon, voilà. C'est la seule théorie que je peux mettre de côté. Mais pour le reste, Ce n'est pas un, c'est un, c'est pas un mystère qu'on va percer aujourd'hui.
Eh ben, je te propose qu'on passe au deuxième sujet.
Ouais.
Eh bien, moi, je vais te parler d'un meurtre qui a eu lieu le 2 novembre 2001, il y a donc plus de 20 ans. La victime s'appelle Eric Kallers, et c'est un homme qui a été tué d'une balle dans le dos. Alors, ça s'est passé juste devant chez lui, dans un village du Pas-de-Calais. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que personne n'a rien entendu, et que ça s'est passé en juste quelques minutes. Et juste avant de te raconter toute cette histoire, j'aimerais te donner un petit peu de contexte et te parler de la victime et de sa famille. Donc, comme je te l'ai dit, la victime s'appelle Eric Kallers. Il est né le 4 décembre 1961 et c'est un ouvrier ajusteur à l'usine de la cristallerie d'Arc. Il habite à Buzne, une petite commune de 1200 habitants. Sa maison est dans un hameau à 800 mètres du bourg, au milieu de champs de betteraves. Ses parents étaient d'ailleurs des exploitants agricoles et cultivaient la betterave depuis plusieurs générations. C'était un homme caractérisé comme sérieux, discret, timide, introverti. Il n'avait pas d'ennemis connus et il était apprécié de tout le monde. Ses collègues de travail louaient sa droiture, il était toujours prêt à rendre service, il aimait le jardinage et passait beaucoup de temps justement dans son jardin. En avril 1980, il se marie avec Cécile Cordonnier, une des 8 enfants de la ferme voisine. Ils ont un fils, Rémi, en 1990. Et c'est un collègue, Bruno Havet, qui l'emmenait le matin et le soir pour les trajets entre le travail et sa maison. Eric Kallers, il avait bien une voiture, une Renault 11, mais il l'avait mis en vente au moment des faits et elle était garée devant sa maison. Donc c'est pour ça qu'il avait besoin d'un collègue pour l'emmener au travail.
Mmh.
Et donc je vais maintenant vous raconter ce qu'on sait du soir du 2 novembre 2001. Ce qu'on sait, c'est qu'à 21h23, un voisin promenant son chien passe devant la maison des Kallers. La voiture d'Eric est bien présente et ses pneus sont intacts. Là, tu vas te demander pourquoi je te parle des pneus.
Ouais, exact. Pourquoi tu me parles des pneus?
À 21h30, Bruno Havet dépose Eric Kallers devant chez lui. Celui-ci remarque que les deux pneus côté conducteur de sa voiture sont à plat.
Ok, c'est bizarre.
Donc, il y a 7 minutes, ils étaient encore corrects. Il rentre chez lui pour saluer sa femme, Cécile, et lui dit qu'il ressort dehors pour vérifier les pneus. À 21h37, Cécile sort pour vérifier si tout va bien. Elle retrouve son mari étendu sur le dos près de sa voiture en train d'agoniser.
Ben voyons.
Donc ça s'est passé très rapidement.
Ben oui. Quelqu'un l'attendait, c'est sûr.
A priori, quelqu'un l'attendait, ouais.
Ok.
Donc les secours arrivent sous peu, mais c'était déjà trop tard pour Eric Kallers qui meurt entre-temps, à l'âge de 39 ans, d'une balle reçue dans le dos.
Une balle en plus, ça fait du bruit quand même,
ouais.
Un fusil, là.
A priori, il suffit de mettre...
un silencieux, mais je veux dire...
Un silencieux.
Ça, come on, qui a ça, un silencieux?
Un professionnel, peut-être.
Effectivement, un professionnel. OK.
Après les secours, c'est la police qui arrive pour passer la scène de crime au peigne fin. Les agents trouvent au total 6 impacts de balles, donc 4 dans les pneus, une balle perdue qui est sur la voiture, et la dernière, du coup, dans le dos de la victime.
Mm.
Il faut savoir que toutes les douilles ont été ramassées. On a donc affaire à quelqu'un de méticuleux et qui n'était visiblement pas pressé.
Ok, j'ai trop de questions. Je vais te laisser finir, là.
Ok, ça marche.
Je te laisse finir.
Alors, selon les experts, le tireur était allongé dans un fossé de l'autre côté de la route de son domicile. Curieusement, malgré le fait que les 6 balles aient été tirées, personne n'a rien entendu. Aucun coup de feu n'a été signalé par les voisins ni par la famille. Et donc, ouais, à ce stade-là, j'aimerais quand même pointer du doigt la rapidité des actions. Je vous rappelle qu'à 21h23, la voiture avait ses pneus intacts. À 21h30, la victime arrivait à la maison et remarquait que ses pneus étaient à plat. Et à 21h37, sa femme l'a retrouvé mort. Enfin, en train d'agoniser.
Hmm.
Donc, tout s'est passé très très vite. Je pense, d'ailleurs, que si sa femme était sortie une ou deux minutes plus tôt, elle se serait sûrement retrouvée nez à nez avec le tueur en train de ramasser les douilles juste à côté de la voiture.
Ouais, parce qu'il fait, c'est le soir, là, on s'entend, il est 21h, là, donc il n'y a pas de lumière. Théoriquement, il faut qu'il y retrouve les douilles. Là.
Ouais, il y a très peu de lumière, sachant que moi j'ai regardé un petit peu sur Google Maps où c'était, et c'est vraiment, ouais, c'est un hameau, hein, c'est vraiment paumé. Hein. Donc il n'y avait pas de lampadaire ou quoi que ce soit. 5 jours plus tard, le légiste du centre hospitalier de Lens a établi qu'il avait été tué par un seul projectile dans le dos, alors qu'il était accroupi pour vérifier l'état de ses pneus. L'hémorragie était telle qu'il ne pouvait pas survivre de toute façon. Et l'arme du crime, ce serait un 22 long rifle. L'autopsie a également révélé des traces d'anxiolytiques, des médicaments habituellement utilisés pour traiter la dépression, ce qui est étonnant car a priori Eric Kallers avait une vie sans problème connue. Même sa femme ne savait pas qu'il en prenait en fait. Donc ça c'est très bizarre. Après on en revient un petit peu à l'histoire de tout à l'heure où on disait bah, c'est peut-être une théorie du suicide, mais non parce qu'a priori il allait bien, mais on n'en sait rien en fait, c'est dans la tête des gens quoi. On va parler des premières pistes. Il faut savoir que les enquêteurs ont rapidement trouvé LE suspect idéal. Il s'appelle Jean-Michel Leblanc, c'est le beau-frère d'Eric Kallers, via sa femme, qui est donc la sœur d'Eric Kallers. La justice a suivi cette piste de manière un petit peu acharnée, et elle a négligé, à mon sens, pas mal d'autres pistes. Donc avant de vous parler de Jean-Michel Leblanc, j'aimerais bien vous parler des autres pistes qui pourraient expliquer le meurtre. La première, ça pourrait être tout simplement une erreur sur la personne. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que l'un des voisins des Kallers était un policier qui luttait sur des affaires de drogue. Et au moment des faits, il se sentait menacé, il pensait qu'on avait des raisons de s'en prendre à lui. Cependant, comme Eric Kallers ne ressemblait pas du tout à ce policier, l'hypothèse a rapidement été exclue. Mais j'aimerais quand même souligner, et tu l'as déjà dit, qu'on était aux alentours de 21h30 en novembre.
Bah oui.
À cette heure-ci, ouais, il fait nuit, hein. Il fait nuit noire.
Bah oui, oui.
Donc pour moi, ça reste quand même, à mon sens, plausible et difficile à écarter aussi facilement.
Je suis d'accord.
Deuxième hypothèse, qui peut également corroborer la première, ce serait un meurtre commandité. Et pourquoi pas justement commandité par un gang ou un trafiquant de drogue. Cette hypothèse, elle est basée sur la méthodologie appliquée pour attirer la victime, et également que les tirs semblaient extrêmement précis, et donc que l'on pourrait avoir affaire à un professionnel. Cette piste a été exclue car l'arme du meurtre et la personnalité d'Eric ne correspondaient pas à ce type de scénario. Sauf s'il y a une erreur sur la personne, encore une fois.
Ouais.
La troisième possibilité serait l'amant de Cécile Kallers, la femme d'Eric. Effectivement, celle-ci avait reconnu qu'elle avait eu une brève liaison avec le boucher du centre commercial de Béthune, l'endroit où elle travaillait.
Ben la coquine.
Eh oui, il y a toujours un amant dans l'histoire.
Il y a un motif, en tout cas.
Il y a un motif. Et il était tout l'inverse d'Eric. Il était connu pour être macho, il était très endetté. Il avait fait l'objet de plusieurs plaintes concernant des violences domestiques. Cependant, la piste a été abandonnée car il avait a priori un solide alibi.
C'est-à-dire ?
On ne le sait pas.
Ah, ok. on va leur faire confiance.
Bah, disons que c'est la police. Normalement, elle a fait son travail, donc on va faire confiance à la police.
Mais est-ce que ça pourrait être la main qui fait affaire avec un professionnel.
L'amant qui aurait commandité le meurtre.
Ouais.
Ça peut être une hypothèse.
Qui voulait pas le faire lui-même, mais bon.
Après, on se retrouve... Enfin, on est quand même dans un tout petit patelin. Hein. Je sais pas, c'est fou de se dire que le boucher aurait commandité un meurtre. Tu vois, ça me paraît fou.
Honnêtement, ça fait vraiment scénario de film, mais j'ai le goût d'y croire.
Ouais, non, mais c'est vrai. Ce serait beau.
Oui, ça serait beau. Justement, le patelin dans lequel il se passe rien...
Il y a une dernière hypothèse, donc la quatrième, ce serait une question d'argent.
Ouais.
En effet, à peine quelques semaines plus tôt, Eric Kallers avait souscrit une police d'assurance au profit de sa femme et son fils s'il lui arrivait un problème, et dont le montant pouvait atteindre 1 million d'euros. C'est pas mal hein, aussi cette hypothèse.
Ouais.
Et d'ailleurs, grâce à cette assurance, sa femme a reçu 81 780 euros.
Ouais, on est loin du million, hein.
On est loin du million, mais ça fait quand même une chouette somme.
Mais évidemment, en même temps qu'elle a reçu de l'argent, je veux dire, c'est ça le but, mais...
Ben, c'était juste quelques semaines avant, tu vois, qu'il avait souscrit.
C'est toujours ça, hein?
Ouais.
C'est très Agatha Christie comme truc.
Par contre, il faut savoir, justement, qu'a priori, il y avait seulement la mère d'Eric et l'une de ses sœurs qui étaient au courant de cette assurance vie. Sa femme affirme l'avoir découvert après le meurtre.
Bon.
Et on a appris qu'Eric avait décidé de souscrire à cette assurance parce qu'il se sentait coupable suite à un incident qui a eu lieu le 15 septembre, donc environ 2 semaines avant les faits. Une partie de la maison avait été endommagée par un incendie causé par le fait qu'Eric n'avait pas correctement éteint la friteuse électrique.
Ok.
Donc en gros, 2 semaines avant les faits, il a failli foutre le feu à la maison. Il a souscrit à une assurance vie et puis il est mort juste après quoi.
Bien étrange tout ça. On nous dit que ça se voit quand c'est des tirs à bout portant. Donc il y a comme la notion de la distance de la personne par rapport à... Comment est-ce? Eric?
Ouais. C'était pas à bout portant. Hein.
C'était pas à bout portant.
C'était pas non, à bout portant.
C'était de proximité.
Ouais, c'était pas loin en fait. Faut imaginer la voiture garée le long de la route. Et du coup, il y a la route. Et de l'autre côté, c'est pas un trottoir, c'est un fossé. Et a priori, le tueur était allongé dans le fossé.
Ok. Ouais, c'est comme dans une tranchée. Là.
C'est ça.
Il y en a qui disent que c'est sa femme qui l'aurait tué. Mais ça fait du sens avec le truc de police d'assurance, tu sais, si on a un motif. Ou sinon, le fait qu'elle avait un amant aussi. Peut-être qu'elle voulait vivre sa vie avec quelqu'un d'autre.
Bah, c'est vrai que la femme, y avait double motif pour elle, quoi. Il y avait la police d'assurance ouais. Et en plus l'amant. Mmh. C'est très, 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 très suspect. Mais de là à commanditer un meurtre ou à directement tuer son mari...
Ouais, c'est sûr qu'il y a quand même une marge entre les deux, mais bon, elle, pour moi, elle est quand même très suspecte. Ensuite de ça, il y a Michael G. qui dit « La question d'argent reste la plus probable pour un meurtre. » Ça fait partie des motifs, les endettés, quelqu'un endetté et tout. Mais en même temps, comme tu disais, ça n'allait pas du tout avec le caractère de Eric, mais... Qu'est-ce qu'on sait vraiment à propos d'Eric? Qu'est-ce que les gens savent à propos d'Eric?
Bah en fait, c'était vraiment la personne lambda, droite, et qui posait pas de problème, tu vois.
C'est les pires, on dirait. Tu sais, c'est toujours ça. C'est toujours comme, oh, on s'en serait jamais douté.
Ah bah, c'est sûr.
Tu sais, quand tu vis ta petite vie tranquille, comme, je sais pas s'il y a des fans ici de Ozark, là, mais bon, c'est un peu ça. Mmh. Donc, c'est subtil. La théorie de l'assurance vie est assez populaire ici.
Ouais, c'est vrai qu'elle pensait toucher jusqu'à 1 million d'euros avec cette assurance vie. Hein. Donc, ouais.
Mais c'est vraiment, en même temps, c'est vraiment con parce que c'est tellement évident. Je veux dire, qui fait ça encore? Ça a été répété des millions de fois là, dans des documentaires de true crime. Ou... C'est quelque chose qui marche encore, ça, dans la tête des gens, de souscrire à une assurance vie puis de tuer son mari.
Elle n'a jamais été suspectée. Hein.
Mais est-ce qu'on sait si elle n'a jamais été suspectée ou si un peu, mais après enquête, non?
A priori, elle n'a jamais été suspectée et elle n'était pas seule à la maison, il y avait son fils.
Ok.
Après, son fils était jeune, hein, il avait 11 ans, je crois. Elle était dans sa maison et c'est elle qui a découvert Eric en train d'agoniser. Quoi.
Hmm.
Mais après, il n'y a pas non plus de témoins qui ont vu que c'est elle qui a découvert à 21h37.
Non, c'est ça, c'est selon sa timeline à elle.
Ouais.
Et il y a Michael qui dit « À qui profite le crime ?»
Bah là, clairement, à la femme.
Mm.
Ça lui profite financièrement, mais c'est pas pour ça qu'elle voulait absolument mort. Quoi.
Mais en fait, on sait pas si elle voulait mort, déjà, à la base. T'sais? Est-ce qu'elle était triste? Est-ce qu'il y a eu comme... Est-ce qu'on sait sa réaction? Est-ce que... Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu des indices par rapport à... Toi, tu me dis, elle a été jamais mise en cause là-dedans. Jamais.
En fait, elle a jamais été mise en cause parce que les policiers avaient trouvé le suspect idéal et ils se sont acharnés dessus. Et elle aussi, en fait, elle était convaincue que c'était bien, du coup, la personne dont je vais parler, Jean-Michel Leblanc, qui avait commis ce meurtre.
Ok. Parle-nous de Jean-Michel Leblanc, là. On est rendu là.
Eh ben, ça marche. Donc effectivement, on avait beaucoup de pistes à creuser et à suivre. Mais ouais, la police s'en est rapidement détournée car elle pensait avoir trouvé le suspect idéal. Celui-ci s'appelle donc Jean-Michel Leblanc. Il est marié à Françoise, l'une des sœurs d'Éric. Jean-Michel Leblanc travaillait à ADECO au moment des faits, c'est une agence d'intérim. Et il était d'ailleurs délégué syndical. Le couple a 3 enfants et il vivait à ce moment-là également à Buzne, à 800 mètres du domicile des Calers. A priori, il n'y avait aucune animosité entre les deux familles. Quelques jours auparavant, le 31 octobre, ils dînaient d'ailleurs ensemble. Et 2 semaines plus tôt, Jean-Michel était venu aider Eric dans les travaux pour réhabiliter sa cuisine suite au départ d'incendie avec la friteuse.
Ah oui.
Donc les deux hommes s'entendaient a priori très bien. L'enquête commence donc, et dès le lendemain des faits, le 3 novembre, les policiers interrogent le voisinage et les proches afin de savoir si certains d'entre eux détiennent des armes. Jean-Michel répond par la négative en disant, je cite, « J'en ai jamais eu, ni fusil, ni carabine, ni revolver, ni pistolet. » Mais tout bascule 3 mois plus tard, lorsque des voisins indiquent à la police qu'ils ont vu le fils, Leblanc, tirer avec une carabine qui pourrait être une 22 long rifle.
Mmh.
Donc on se retrouve le 15 février. Donc le couple est interrogé à part, et la femme avoue. Elle indique que son mari avait menti pour ne pas avoir de problème, car l'arme n'était pas enregistrée. Elle avait été achetée, il y a plus de 20 ans, pour tirer des cibles dans le jardin. Il ne voulait pas d'ennui, alors il avait préféré passer ce détail sous silence.
Ben oui, mais il a insisté qu'il n'y avait aucune arme. À quel point tu te tires dans le pied en disant ça?
Il aurait dû la jouer fair play, quoi, direct.
Ben oui.
Direct, ben... expliquer le truc et il n'aurait pas paru suspect, en fait. Mais là, direct, ça met un red flag sur sa tête, quoi.
Jean-Michel!
Jean-Michel, t'as merdé, là.
Jean-Michel! Franchement! Oh my god! Non, mais pour vrai, il compte, tu sais. Voyons. En tout cas. Moi, je suis là à juger le gars, Jean-Michel, là, en tout cas. Je suis trop investi dans ton histoire.
Ça se trouve, on aurait fait peut-être pareil, parce qu'on aurait grave flippé, tu vois. T'as une arme qui ressemble, tu vois, et elle est dans ton grenier, quoi.
Ouais, mais ça sert à quoi de mentir, là? Je veux dire, ils vont la trouver, ton arme.
La mâche de Clégo, Jean-Michel pas fiable.
Il y a quelqu'un qui a dit « Jean-Michel est pas si blanc que ça ».
J'avoue, j'avais même pas pensé à ça.
OK, là, on a une théorie vraiment, vraiment champ gauche. Peut-être que Eric a découvert qu'il y avait une maladie incurable et qu'il voulait pas que sa femme et son fils vivent dans les dettes. Qu'il aurait lui-même décidé de faire tout ça juste pour disparaître.
Ça me paraît très tiré par les cheveux,
quand même, là, comme théorie. Ouais.
On va continuer avec Jean-Michel, du coup, hein, pour l'instant.
Jean-Michel.
Okay.
Jean-Michel semble un bon bouc émissaire. On continue.
L'arme est ensuite récupérée dans le grenier des Leblanc et elle est donc analysée par un expert en balistique. Et voici la conclusion. Ouvrez les guillemets. Il est permis de conclure qu'il s'agit de l'arme du crime. Fermez les guillemets.
Ok.
Le 17 février, Jean-Michel Leblanc est donc mis en examen pour meurtre avec préméditation dans l'attente d'une contre-expertise dans la prison de Béthune. À ce moment-là, les enquêteurs pensent qu'ils détiennent le meurtrier d'Eric Kallers et qu'ils ont résolu l'enquête, alors que les proches et les voisins ne croient pas une minute à cette hypothèse. Son épouse raconte que le soir du drame, elle est rentrée à la maison vers 21h40. Elle est passée devant le domicile de son frère, Eric, et elle a noté qu'il y avait de l'agitation, sans se douter de ce qu'il venait de se passer. Elle est arrivée à la maison et a trouvé son mari en pyjama en train de regarder la télé. L'un des fils jouait à la console dans une pièce voisine avec l'un de ses amis. Leur fille était à l'étage dans sa chambre. Françoise a alors appelé chez son frère et a appris sa mort. Jean-Michel ne s'est pas rendu le soir du drame chez son beau-frère et il a retourné une photo d'Eric qui était posée sur le buffet, comme s'il ne voulait plus voir ce visage. Et le lendemain, il a passé l'après-midi dans son jardin à bêcher, une attitude que les enquêteurs trouvent étrange.
Ah, c'est mon genre, ça. Moi, quand j'ai la tête trop pleine, je vais faire des tâches connes. Tu sais, comme je vais faire la vaisselle ou... Tu sais, quand t'es comme perturbé.
Ouais, je suis d'accord, sauf qu'à ce moment-là, il est quand même censé aider sa famille, peut-être, tu vois, passer l'épreuve ensemble.
Mais peut-être qu'il est trop perturbé. Il faut qu'il se change les idées. Pour vrai, il y a des gens qui gèrent très mal le deuil.
Ouais, non, mais c'est vrai. Un deuil, de toute façon, chacun le gère à sa façon.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il est dans son élément, dans son jardin. Alors, bah, il va dans son jardin et puis il s'occupe de son potager, quoi.
Bah ouais, je sais pas, il essaie de penser à autre chose. Bon, disons qu'il est pas coupable. Mais disons que tout ça, ça le rend assez coupable, on s'entend.
Mm-hmm.
Mais disons qu'il l'est pas. Ses comportements sont quand même spéciaux.
Ouais. En tout cas, selon la police, Jean-Michel avait un mobile. Un héritage. Plus précisément, une pâture appartenant aux parents de la victime qui n'étant pas décédé à l'époque et qui réfutait cette théorie. Ils ont même à multiples reprises appelé le juge d'instruction pour démentir cette histoire. Mais a priori, effectivement, il y avait une histoire, enfin selon la police, d'un héritage. Ça me paraît un petit peu bizarre, sachant qu'il restait quand même après la femme.
Ben oui. Ah mais non, mais parce que c'est le mari de sa sœur, donc peut-être que ça restait dans la famille. Regarde, je donne un exemple. Peut-être que l'héritage en question aurait été séparé entre Eric et Françoise, par exemple. Mais si Eric meurt, ça va tout à Françoise.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais.
Ça aurait pu. Ouais, c'est comme si c'est un truc de famille, là. C'est pas en lien avec sa femme.
A priori, les parents, eux, réfutent le truc, quoi.
OK.
Pour eux, il n'y avait pas de problème entre les deux. En tout cas, le 22 juillet 2002, alors que Jean-Michel Leblanc est en prison depuis 5 mois... La contre-expertise de 100 pages tombe et affirme que la balle n'a pas été tirée par ce fusil.
Ah.
Donc l'homme est rassuré, ses avocats confiants, mais contre toute attente, le juge demande le maintien de la peine. Selon lui, une troisième expertise est nécessaire. Pourquoi pas a priori, hein, parce que t'en as une qui dit oui, l'autre qui dit non,
autant
mettre une troisième pour... On est un peu balle au centre, quoi.
Ouais, mais ça dépend de la qualité des arguments dans les deux expertises, là, mais ouais, je comprends le but de venir trancher avec une troisième. Mais pendant ce temps-là, comme tu dis, ils ignorent complètement toutes les autres pistes, ils sont vraiment focus sur Jean-Michel.
Ouais, parce que là, on est 5 mois plus tard, hein, et ils sont toujours dessus.
Ouais. Mm-hmm. Puis en fait, toute l'énergie va sur lui.
Ouais. Donc la troisième et contre-expertise est réalisée le 17 décembre, et ses conclusions sont similaires à la deuxième et confirment donc que le fusil de Jean-Michel Leblanc n'est pas celui du meurtre. On a appris d'ailleurs, des années plus tard, que la première expertise avait été faite par un médecin légiste ayant un agrément en balistique, mais que sa machine était en panne le jour de l'expertise, et que le juge lui avait quand même mis la pression pour avoir un résultat rapidement. Alors elle avait été bâclée.
Mais c'est con quand même. Il me semble que ça fait partie de ses responsabilités au médecin légiste, justement, être neutre, faire la recherche jusqu'au bout, non?
Ouais, je pense qu'il a regardé sur Google, il a dit, bah tiens, c'est la même arme, c'est un 22 long riff.
Oh my god. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont merdé, en fait, dans cette histoire.
Mais le pire, c'est que la troisième expertise, elle n'a pas suffi à libérer Jean-Michel Leblanc, qui est resté incarcéré, car une deuxième arme apparaît dans l'affaire.
Non!
Effectivement, si, on a retrouvé des fragments d'une autre carabine dans la poubelle de l'atelier de Jean-Michel.
Ah, des fragments dans la poubelle!
Une carabine qu'il avait volontairement détruite. Jean-Michel, vraiment pas fiable.
Aïe, 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 Jean-Michel!
Non, mais Jean-Michel, enfin!
Comme on dit par chez nous, il court après le trouble. Le gars, il est sous enquête. Depuis un an, au minimum. Déjà, il a menti à propos de son arme, une première fois. Il y a 3 rapports d'expertise. Et en plus, là, il y a une arme qui apparaît dans sa poubelle, alors qu'il est sous enquête encore.
Ouais.
Comme, soit qu'il est, c'est le roi des cons, soit qu'il y a quelqu'un qui a mis une arme dans ses poubelles.
Alors, Jean-Michel, il a répondu à ça. Et il reconnaît qu'il a menti, encore une fois. Il y a une douzaine d'années, lors d'un déménagement d'un ami gendarme, celui-ci a oublié la carabine de son camion. C'est n'importe quoi.
Ouais, vraiment.
Jean-Michel a voulu s'en débarrasser lors du meurtre de son beau-frère de peur qu'on la retrouve. En fait, il avait 2 carabines chez lui au moment du meurtre et il a flippé de fou.
Ben oui, mais surtout qu'il venait de dire qu'il n'y en avait pas d'armes.
On arrive au 11 septembre 2003. Donc on est bien plus d'un an après les faits. Hein. Régis Dumont, l'ancien propriétaire du fusil, donc du deuxième fusil, confirme cette histoire, expliquant qu'il ne l'avait jamais réclamée parce qu'elle avait un défaut de culasse et elle pouvait tirer que des petites cartouches. Et donc que la culasse ne pouvait pas contenir des balles de 22.
Donc ça peut pas être l'arme.
Ouais, ça peut pas être l'arme. Sauf que les enquêteurs, ils sont qu'à moitié convaincus. D'autant plus que Régis Dumont, il fait partie du comité de soutien à Leblanc, alors il ne le considère pas vraiment comme fiable, en fait. Pourtant, a priori, cette arme ne correspond pas, la balistique ne correspond pas. Enfin, c'est factuel, en fait, c'est impossible.
Ben non.
Le 24 février 2004, après 2 ans d'incarcération, Jean-Michel est enfin libéré sous contrôle judiciaire. Il lui est interdit de rester dans le Pas-de-Calais et il est assigné à résidence chez sa sœur dans la région Rhône-Alpes. Il est toujours considéré comme le suspect principal dans l'affaire. Il a quand même pu compter sur le soutien de sa famille. Même les parents d'Eric Kallers ont continué à soutenir ses demandes de remise en liberté. Une pétition pour sa libération a recueilli 300 signatures. Un comité de soutien a vu le jour dans la société Adeco, là où il travaillait, et qui a permis de débloquer 20 000 euros pour couvrir les frais de justice. Cependant, la veuve d'Eric Kallers ne se joint pas à ce comité de soutien. Elle est convaincue que c'est bien Jean-Michel Leblanc, le meurtrier. Presque 10 ans vont ainsi s'écouler, sans qu'il ne soit fixé sur son sort, toujours mis en examen pour homicide et toujours susceptible d'être renvoyé du jour au lendemain devant une cour d'assises. Donc les Leblanc vont finalement revendre leur maison et déménager. S'ensuit ensuite une succession de batailles juridiques. Un premier non-lieu est prononcé le 13 août 2013 en faveur de Jean-Michel Leblanc, mais l'avocat de Cécile Kallers fait appel. On arrive après en mai 2014. Une nouvelle arme encore fait apparition.
Une troisième. Non, Non.
Non, mais c'est, cette fois, je te rassure, c'est pas une arme retrouvée cette fois dans le grenier de Jean-Michel. C'est une carabine ayant appartenu à une femme qui a quitté Buzne après le meurtre, mais qui finalement n'est pas non plus l'arme du crime. Ah, c'est n'importe quoi, toutes ces armes.
Ouais, c'est n'importe quoi. Les armes réapparaissent 15 ans plus tard.
On arrive ensuite au 9 juin 2016. La cour d'assises annule encore un deuxième non-lieu. Cette fois, un procès va avoir lieu. Et c'est le jeudi 15 novembre 2018 qu'un non-lieu définitif est accordé par la cour de cassation. Jean-Michel Leblanc est donc innocenté après avoir vécu 17 ans dans la peau d'un suspect, dont 2 ans en détention. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve vraiment que c'est un gâchis.
Ouais.
Aussi bien pour la vie de Jean-Michel Leblanc, qui a quand même été en suspens pendant 17 ans,
ouais.
Mais également pour l'affaire qui maintenant, tu vois, 20 ans plus tard, elle se retrouve à son point de départ.
Ouais.
Avec aucun nouveau témoin, aucun nouveau suspect, des pistes qui auraient mérité d'être creusées à l'époque, mais qui ne l'ont pas été. Les enquêteurs sont focalisés, sont acharnés sur une seule personne. Ils n'ont jamais vraiment cherché ailleurs. Ils auraient pu explorer d'autres pistes, sa femme, l'assurance vie,
ouais.
L'erreur sur la personne, le meurtre commandité. Et sûrement d'autres, parce que finalement, ils ne sont pas allés bien loin.
Ben non.
Pour ma part, moi, j'espère qu'on retrouvera la personne qui a commis ce meurtre, pour que la famille puisse obtenir le dénouement et passer à autre chose.
Mm.
Mais là, je t'avoue que, à part trouver une quatrième arme ou une cinquième arme, je ne sais pas.
Pauvre Jean-Mich.
Ouais, Jean-Michel, il a pris cher quand même.
Bon, j'imagine, rendu là, qu'il n'est vraiment pas coupable, parce qu'il a été, disons, considéré coupable pendant vraiment longtemps pour qu'il décide de revenir sur leur pas par rapport à son statut. Je pense que ça prouve que c'est pas lui. Mais entre toi puis moi, après presque 20 ans, je veux dire, toute trace qu'il aurait pu avoir de quoi que ce soit d'autre, c'est terminé, là.
La bonne question à se poser souvent, c'est à qui profite le crime. Et là, on a quand même une bonne réponse, tu vois. On sait que la femme, elle a potentiellement pu revenir plus tard avec son amant. Elle a empoché une somme plutôt coquette.
Ouais.
Mais voilà, ça fait pas d'elle. On peut pas dire que ça en fait un meurtrier pour autant, quoi. Une meurtrière pour autant.
Non. Mais c'est toujours étrange des histoires comme ça. Puis elle, on l'a dit tantôt, là, mais elle a deux motifs, la femme.
Mm.
Mais c'est quand même très organisé, là. Le fait qu'il y a quelqu'un qui est venu briser les pneus, qui est dans le fond une façon d'attirer dehors. C'est une façon de l'attirer dehors, right?
Mm.
Pour qu'il aille se pencher près de la voiture. Puis après ça, qu'il se fasse tirer dans le dos. Quand même vraiment organisé comme truc. C'est pas à la volette, là.
C'est ultra professionnel.
Ben oui. Puis bon, la femme, tu sais, je veux dire, est ressortie 7 minutes plus tard. Moi, pour moi, peut-être qu'elle savait que ça s'en venait, puis que, tu sais, « Ah oui, mon chéri, ah oui, vas-y, va vérifier tes pneus. » Puis là, après ça, elle regarde sa montre, puis là, elle se dit « Je vais aller voir. » Puis... Tu sais, il me semble que ça va tellement vite. Je te donne un exemple. Toi, là, si tu vas dehors dans ton garage là, parce que tu veux réparer ta roue de vélo,
mm.
Ça va prendre combien de temps avant que ta femme sorte pour voir si t'es correct?
Moi, je dirais beaucoup plus de temps.
Ben, exactement. C'est mon point. Moi, si je dis je vais chercher quelque chose dans la voiture, c'est pas au bout de 4 minutes que quelqu'un va venir voir si je suis correct, là. Non?
Ben après, c'est peut-être parce qu'elle trouvait ça étrange que les deux pneus soient plats comme ça et voulait voir ce qui se passait, quoi, peut-être. Hein.
Je sais pas. Mais je trouve ça quand même étrange, tu sais.
Tu marques un point, parce que c'est vrai que 7 minutes, c'est... Bah, c'est rapide, ouais. Effectivement, c'est rapide. C'est un modèle très répandu, le 22, dit Clégo. Ouais, moi, je me connais pas trop en armes, mais effectivement, ouais, si c'est un modèle très répandu, c'est peut-être pour ça que tout le monde en a dans sa poubelle, quoi. Pourtant, en France, on n'est pas très armé, tu vois, comparé aux...
Non, c'est
à d'autres pays.
Mais en même temps, si c'est une petite commune, puis les gens ont des pâturages avec des animaux, je veux dire, ça te prend une carabine.
Ouais. Clégo, pourquoi un promeneur regarderait les pneus? Surtout dans le noir. Ouais, t'as raison. Qui est ce promeneur? On n'a pas d'infos sur l'identité du promeneur, on sait juste que c'est un voisin. Ouais, je pense qu'il n'a pas spécifiquement regardé les pneus, mais la police a dû lui demander s'il avait vu quelque chose d'étrange vis-à-vis de la voiture, puis il a dit non, quoi. Bah, à mon avis, c'est ça, quoi.
Est-ce que l'enquête a été reprise? Est-ce qu'il y a une équipe qui s'en occupe maintenant ou c'est mort?
C'est pas considéré comme un cold case, mais ça a pas bougé depuis 2018, en fait.
Mais moi, je pense qu'ils ont tellement abandonné de pistes que, je veux dire, il y a plus rien. Parce que, tu sais, au tout début, là, tu sais, il y a une arborescence, par exemple, des pistes, mais si dès le départ, ils ont approfondi aucune autre piste que celle de Jean-Michel, ça va être difficile de trouver quelque chose.
Ça va être compliqué, effectivement. On va laisser l'enquête se poursuivre. En attendant, je te propose que tu nous parles du troisième dossier.
Ah ben oui, allons-y. Allons-y. Je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée en Nouvelle-Écosse. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la Nouvelle-Écosse, c'est aussi au Canada. C'est une province dans l'est du Canada. C'est une île. C'est pas une île, mais c'est une province dans l'est du Canada. Je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était une île, c'est pas une île. Donc, l'histoire se passe, s'appelle Le Puits au trésor vide. Ta-da!
Sympa comme nom.
Oui, hein, c'est bien. Donc, en 1795, donc c'est dans les débuts du Canada, tel qu'on le connaît, trois adolescents découvrent une étrange dépression sur la rive sud d'une île en Nouvelle-Écosse. C'est un endroit qui serait prisé des pirates et les garçons commencent à creuser dans l'espoir de trouver un trésor. Mais ce qu'ils vont trouver, ça va être des couches successives de bois et donc une genre de charpente sous la terre. Donc, ils trouveront pas un butin, mais ils trouvent une pierre d'ardoise avec des signes énigmatiques dessus.
Pourquoi ils creusaient? Ils pensaient trouver un trésor là?
Ben, oui, parce que c'est un endroit qui était réputé pour... qui avait déjà une aura mystérieuse par rapport aux pirates. Puis bon, ils pensaient qu'ils allaient trouver des trésors.
OK. Okay?
C'est des jeunes, c'est des adolescents. Ils se sont dit, bon, on va aller passer une fin de semaine sur l'île, on va trouver des trucs. Bon,
okay.
Je sais pas, c'est peut-être un trip d'ado, mais bref, ils se sont dit, on s'en va là. C'est trois ados. Fait que là, ils trouvent l'ardoise, puis là, il y a des signes énigmatiques dessus. Ils se disent, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je suis certain que c'est une carte au trésor.
Ah ouais, OK.
Donc, c'est comme ça que commence la saga du trésor de... En fait, l'île s'appelle Oak Island. Il y a plein d'explorateurs par la suite qui ont voulu embarquer dans le train et essayer de voir qu'est-ce qui se cachait sur cette île. Ça fait plus de 225 ans qu'il y a des gens qui vont de façon sporadique sur l'île pour essayer de fouiller. Dont le président américain Franklin D. Roosevelt,
okay,
qui... est allé là-bas, lui-même, pour creuser. C'est qu'il y a eu plein de gens aussi qui sont morts en allant fouiller sur l'île, parce que c'est quand même pas des petites fouilles, n'est-ce pas? Il y en a qui ont amené de la dynamite pour dynamiter, il y en a qui ont amené, tu sais, toutes sortes de choses. Là, c'est l'appât du gain dans toute sa splendeur. Il y a six hommes qui sont décédés. Si on met en commun tout ce qui a été fait, il y a des millions de dollars en fouilles qui ont été investis. Ils n'ont jamais trouvé la moindre pièce d'or.
Ah ouais, donc ils ont, on a perdu des millions pour trouver,
oui,
zéro, quoi.
Exactement. Tout ça basé sur une plaquette d'ardoise qui a été retrouvée en 1795. Je vais vous donner plus de détails. Là. C'était vraiment comme juste un résumé du cas.
OK.
T'sais, d'où ça vient, là? Où est-ce que... Comment ça s'est transmis, cette espèce de fièvre de l'île Oak, là, que c'est... Comment les gens ont pu croire qu'il y avait vraiment et réellement un trésor sur cette île-là? 10 ans plus tard, en 1804, il y a un gars qui s'appelle Simeon Linds,
okay,
qui forme un espèce de groupe qui s'appelle le Linds Syndicate, puis il va reprendre les fouilles qui ont été abandonnées par les trois adolescents. Parce qu'à un moment donné, les adolescents, ils en ont eu, comme on dit chez nous, ils en ont eu leur casse,
ouais,
de chercher pour rien. C'est juste trois adolescents... Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de soutien. Ils étaient là avec leur pelle. Là. À un moment donné, ils ont arrêté de chercher, on s'entend. Fait qu'il y a quelqu'un qui a été curieux, là, le Simeon Linds, le fait de Linds Syndicate. Puis là, lui, il fait venir des ouvriers. Fait que là, on est en 1804, 10 ans après. Ils vont creuser jusqu'à 27 mètres de profondeur. Puis ils vont trouver une pierre rectangulaire gravée avec des signes, eux aussi. Ils sont pas capables de déchiffrer, évidemment, parce que c'est pas des symboles connus. Donc, ils vont continuer à creuser jusqu'à 33 mètres. Là, on est à peu près à 11 plateformes de profond.
33 mètres, c'est énorme. Hein? C'est super profond.
Oui, vraiment. Donc, est-ce que c'était une mine? Peut-être, parce que j'essaie de voir qu'est-ce qui peut être creusé avec des plateformes durant 33 mètres de long. Là, à partir de là, ils commencent à avoir des problèmes. Parce que c'est ça qui est arrivé. À chaque fois qu'il y a eu des explorations, il y a eu des problèmes, puis les gens ont abandonné. Puis c'est comme ça qu'on s'est rendu à des millions de dollars investis, puis zéro dollar de récupérer.
Ouais.
OK? Donc, dès le lendemain, il y a un puits, là, il y a 11 mètres d'eau Donc, les chercheurs, ils décident d'arrêter ça puis de remettre au printemps. Quand ils reviennent, ils creusent un autre puits parallèle à l'autre, à 4 mètres de distance de l'autre. Puis rendus à 37 mètres de profond, ils disent « OK, on va creuser vers l'autre puits. » Puis encore une inondation. Puis dans le fond, après un an de recherche et d'argent investi et d'ouvriers, Siméon Linz fait faillite.
En fait, ils ont juste creusé deux trous, ils ont mis de l'eau à l'intérieur, quoi. Ils les ont rejoints, ils ont mis de l'eau après.
Non, l'eau montait. C'est comme il y avait de l'eau.
Ah, mais
oui. Comme un nappe phréatique ou je sais pas.
Ah, mais oui.
Parce que c'est sûr que quand on se met à creuser, puis tu sais, c'est une île, hein. Donc, à un moment donné, il y a de l'eau.
Mm.
Fait que, malheureusement, Siméon Linz a dû arrêter les fouilles parce qu'il y avait plus d'argent. C'est très triste. Ensuite de ça, il a fallu 45 ans de plus pour qu'il y ait d'autres gens qui y allent. Une compagnie qui s'appelle Truro Company. Truro, j'ai de la misère avec ça. Donc, ils ont repris les recherches, mais eux autres, ils n'ont pas décidé de creuser, ils ont décidé de forer. Creuser, tu peux entrer dans le trou, forer, c'est juste une mèche qui descend.
OK.
La compagnie se dit, nous, on va remonter des échantillons, on va analyser un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le trou. Donc, ils ont trouvé du chêne, oak, 3 maillons en or d'une montre à gousset.
OK. Bon, ça vaut pas des millions, ça, j'imagine.
Non, mais ça veut dire qu'il y avait quelqu'un.
Et c'était c'était profond, la combinaison?
Oui.
Ouais, OK.
Et ils ont ressorti aussi des fibres de coco, donc probablement du tissu, qui aurait été daté du 7e, voire du 6e siècle, selon le carbone 14. Donc, ça veut dire qu'il y avait une civilisation sur cette île, de toute évidence. Un an plus tard, à l'été 1850, il y a un nouveau puits qui est creusé, mais lui aussi se fait inonder. Puis le puits principal qui avait été creusé 40 ans avant s'est complètement effondré. L'eau de l'inondation est salée. Là, on se demande si on a passé au travers de l'île. T'sais.
Indigo, c'était la gourmette dans Diplodocus.
Mais non, les dinosaures portaient des Timerex. J'adore. Merci, Ruby. Vraiment. Oui, c'est malade. Bon, donc après quelques recherches, ils vont trouver une plage totalement artificielle à une centaine de mètres.
Comment ça?
Ils ont créé une plage artificielle à une centaine de mètres du trou.
OK.
Donc la plage artificielle, c'est peut-être... Bon, on sait pas de quand ça date, là, mais ça disait 5e ou 6e ou 7e siècle. Mais si on creusait, puis on fait comme des plateformes, il a fallu qu'ils sortent, j'imagine, de la terre, puis on fait comme une plage avec ça.
Ah, ils ont dû quand même pas mal creuser pour pouvoir faire une plage avec ça.
J'imagine. Mais s'il y avait des échafaudages pendant 33 mètres, probablement, éventuellement, il a fallu que la terre sorte de là. Mais ça, ça date du 6e siècle, on s'entend. Ça veut dire qu'il y aurait eu une civilisation qui se serait fait une vie sur cette île-là.
Oui.
Qui aurait complètement creusé 33 mètres de profondeur, qui aurait ressorti la terre, qui se serait fait une plage. Ensuite de ça, bon, il y a des conduits d'écoulement qui sont retrouvés aussi. Puis, ça résout le mystère des inondations, parce qu'ils savaient pas vraiment d'où venait l'eau, mais c'est parce qu'il y avait des conduits sous la terre, proches des puits. Donc, ça faisait juste comme ramener de l'eau.
Mm.
Puis donc, ben, en fait, c'est que l'eau entre en continu, donc malheureusement, tous les travaux qui ont été faits, les puits qui ont été creusés, vont toujours se remplir. Donc, la compagnie Truro a arrêté les travaux et décide d'abandonner la fouille aussi à son tour. On est en 1850.
Donc, on est sur un deuxième échec.
Ouais, exactement. Ensuite de ça, en 1866, donc on est 16 ans plus tard, il y a un professeur de français et d'allemand et tuteur en langue moderne qui s'appelle James Lichty qui déchiffre le fameux message.
Oh, ben oui, c'est vrai, j'avais oublié ce message.
Hein, n'est-ce pas? Donc, il déchiffre le message supposé qui a été transcrit depuis la pierre gravée trouvée, pas la première là, par les petits gars, mais la deuxième plaquette qui a été trouvée par Lynn.
OK.
Donc, l'inscription était gravée en caractère qui s'appelle Tifina. Ça serait une langue d'Afrique du Nord.
OK.
Ça serait écrit... 40 pieds plus bas sont enterrés 2 millions de livres.
Oh!
J'espère pour eux que c'est pas genre des livres.
Oui, oui, j'avoue.
Non, mais parce que ça référait à l'anglais, en fait. C'est des pounds.
Oui, ben oui. 40 pieds, ça fait 12 mètres.
On se souvient, la pierre avait été trouvée à 27 mètres au niveau de la 9e plateforme, donc le trésor serait caché 13 mètres plus bas au niveau de la 13e plateforme.
Et ils sont allés jusqu'ici?
Ça le dit pas.
Ah, ce serait dommage quand même, parce qu'après avoir déchiffré
Non, mais parce que le puits était rendu inutilisable puis était complètement inondé. on se souvient aussi. Ben et ouais. Le pompage ne fonctionne pas, donc il n'était pas capable de creuser plus bas que le plus bas qu'il a déjà été. Là, on se ramène 50 ans plus tard, on est en 1909. Là, ça fait quand même un bout, là. Ça fait comme plus de 100 ans qu'il y a des gens qui vont creuser et faire des recherches sur l'île et essayer de poursuivre les travaux des premiers. En 1909, il y a un ingénieur et son jeune associé qui vont se rendre là pour faire des fouilles. C'est Henry Baudouin et Franklin D. Roosevelt!
OK!
C'est là que ça se passe, en 1909. Oui, parce qu'il a déjà été chercheur de trésors avant d'être élu président des États-Unis en 1932.
Sympa comme CV, ça.
Ouais, mais ils n'ont rien trouvé et ils sont repartis bredouilles. En 1936, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Gilbert Hedden qui découvre sur la plage une autre pierre gravée qui n'a jamais été déchiffrée.
OK, c'était jamais la même langue?
Oui, mais le gars, ça fait genre 50 ans, le chercheur allemand, donc peut-être qu'il est décédé, peut-être que... écoute, j'ai aucune idée, mais ils n'ont jamais décrypté celle-là.
Ah, c'est fou, ça. OK.
Ouais. Après ça, ce qu'on sait, c'est que depuis 1965, l'île appartient à une personne qui s'appelle Dan Blankenship. Puis en 1989, donc c'est quand même récent, il va forer jusqu'à 85 mètres de profondeur.
Oui.
Il va être capable de retrouver des fragments de porcelaine. Donc clairement, il y avait des gens qui... Je comprends pas, il y avait des gens qui vivaient là. Ils ont enterré, genre, qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible qu'il y ait des personnes qui aient enterré aussi profond à l'époque, quoi. Personne n'avait les moyens de faire ça.
Ouh! Est-ce que l'île, c'est une île qui a été comme une île artificielle par-dessus comme une civilisation? Bref, il a décidé de filmer... Là, il a trouvé des fragments de porcelaine, donc il a décidé de filmer à l'intérieur du puits. Puis à 75 mètres de profondeur, il dit avoir trouvé un crâne et trois coffres qu'il n'est pas capable d'extraire parce qu'ils sont pris dans la roche sédimentaire.
Ah, il n'a pas réussi à le prouver?
Non.
OK.
Mais il a filmé.
Ah!
Il a filmé. Ouais.
Donc, on a des
images. On est en 1989. Ouais.
OK.
Puis bon, là, ça fait 200 ans bientôt de fouilles qu'il y a sur cette île-là. Puis l'île est rendue juste un gros tas de trous.
Ah bah ouais.
C'est vraiment difficile de retrouver le puits originel, celui dans lequel il y avait la plaque. Parce que c'est là, théoriquement, qui c'est, le fameux trésor. Il y a plus de 10 000 visiteurs qui se rendent sur l'île chaque année.
Ah, donc ça fait quand même une compensation financière. J'imagine qu'il faut payer là pour
ouais,
y aller.
C'est touristique.
Ouais.
Ouais. Donc, est-ce que vous voulez savoir les hypothèses?
Ah bah, bien
qui
sûr.
Émergent? OK. Des anciennes galeries naturelles qui se seraient bouchées, peut-être. Mais qu'est-ce qui explique qu'on doit creuser 75 mètres pour avoir le moindre trace de vie?
Mm.
Moi, ça me questionne vraiment beaucoup. J'arrive pas à comprendre. Puis surtout, si c'était avant 1700, je peux vous dire qu'ici, en 1700, 1600, là, à part les Amérindiens, c'était pas extrême... On appelait ça les Amérindiens dans le temps. C'était pas très civilisé.
Mm.
Je veux dire, les armes et tout... Tu sais, les outils pour construire, tu sais... Quand les Européens sont arrivés au Québec, au Canada, là, les Autochtones, il y avait des pointes de flèches là, comme armes. Là. Comment tu peux creuser une civilisation comme ça? Moi, je comprends pas. Il y a vraiment quelque chose que j'arrive pas à comprendre.
C'est, ouais, c'est très bizarre.
Il y en a qui disent que peut-être qu'il y avait des pirates. Bon, les pirates, c'était, dans le fond, la prémisse de base. Là, c'est celle pour laquelle les jeunes sont allés faire leur petit voyage de creusage la première fois. Mais c'est quand même difficile d'envisager que des pirates aient enfoui profondément, comme ça, un trésor. Donc évidemment, quand un pirate enterre un trésor, son but, c'est d'aller le récupérer éventuellement. Donc pourquoi il aurait fait tout ça juste pour cacher un trésor? Donc cette hypothèse a été quand même essuyée du revers de la main. Bon, deuxième hypothèse. Il y a un chercheur français qui s'appelle Éric Surcouf qui évoque quant à lui les Templiers. Donc, il pense en effet que l'ancien grand maître de l'ordre des Templiers aurait pu prendre la mer avec un trésor provenant de l'ordre des Templiers. On s'entend, c'est tout ça, c'est les francs-maçons, là, kind of, là. Les Illuminati et tout. Donc, on est dans la théorie du complot ici. Puis il aurait choisi Oak Island pour dissimuler parce que c'est dans l'est du Canada et donc en partant de l'Europe, on arrive en Nouvelle-Écosse. C'est d'ailleurs dans les eaux de Nouvelle-Écosse que le Titanic s'est échoué, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une autre théorie. En 1745, il y a eu une guerre contre des Anglais en Nouvelle-Écosse. Louis XV a fait régulièrement envoyer des bateaux avec des pièces d'or et d'argent pour donner des munitions à ses soldats. Et un des bateaux aurait pu couler et un butin aurait pu être caché par des gens, des autochtones par exemple.
En fait, moi, c'est la profondeur, moi, je trouve, qui me sidère.
Ben oui! Ben moi aussi! J'arrive pas à comprendre avec quel... Tu sais, je veux dire, ils ont utilisé des foreuses, là, pour aller chercher les trucs, donc comment ils ont pu creuser aussi creux? Ma seule hypothèse, c'est que le niveau de l'eau... Pas le niveau de l'eau, mais le niveau de la terre était plus bas, puis ça a été mis par-dessus. Je comprends pas. Moi aussi, j'arrive vraiment pas à me questionner.
Ouais, je pense qu'il y a eu un changement naturel, en fait.
Ouais.
Je pense que c'est obligatoire, parce que personne avait... la possibilité de creuser les moyens techniques, en fait.
Non, exact.
Pour creuser aussi profond.
Non, vraiment, j'arrive pas à comprendre comment ils ont fait. Bon. Après ça, en 1993, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Oak Island Gold. Il suggère que ça pourrait s'agir d'une une cargaison qui a été prise en 1762 proche de l'île qui s'appelait Hispaniola, là, dans le temps, là, qui est devenue Haïti, République dominicaine. Puis qui aurait été le cachet. Dans le fond, ça aurait été une cargaison hispanique.
OK.
Donc, tout ça, ça tourne quand même toujours autour de, genre, bateaux.
Oui.
Mais en même temps, c'est sûr, parce que si ça date d'aussi longtemps, ça peut pas venir de l'Amérique. Ça peut pas provenir de l'Amérique, là. Mm. Ça vient d'ailleurs.
Il y a Clégo dans le chat qui dit qu'on a plein de traces de vie dans des galeries naturelles à plus de 100 mètres de profondeur en Europe et qui datent des premiers siècles.
Mm. Sauf qu'il était pas censé avoir des gens ici. Au 6e siècle.
En tout cas, j'adore les théories dans le chat. Il y a Voleur de Ciseaux qui dit que c'était Jean-Michel qui voulait finir de creuser pour éviter ses poubelles à fusil.
Oui, sûrement, oui.
Jean-Michel qui est toujours dans les bons coups.
J'adore. Et il y a Lily Hamid qui dit peut-être qu'il y avait à l'époque des grottes qui existaient puis qui ont été submergées ou englouties par l'eau.
De toute façon, il y a eu un phénomène naturel. C'est clair.
Oui, c'est sûr. Oui.
Ruby, c'est clairement une mère qui en avait assez d'avoir ses adolescents dans les pattes et qui les a envoyés creuser un trou pour avoir la paix.
Ça, c'est vraiment bon. J'adore. Mais c'est fou quand même comment il y a eu toute une vague là, pendant... Ça fait 200 ans que les gens retournent creuser pour essayer de trouver un truc.
Et donc, actuellement, là, l'île, c'est devenu une attraction un peu touristique où les gens viennent...
Un peu.
OK. Et c'est toujours le même propriétaire?
Oui, depuis 1965. Mais en fait, c'est pas juste à lui, mais la majorité de l'île est à lui. Mais, tu sais, le mystère plane surtout autour de comment les adolescents ont su. En fait, c'est tout con, c'est trois ados qui ont lancé tout ça.
Ouais.
Où est rendue la plaque originale, la petite qu'ils avaient trouvée? Est-ce qu'ils ont inventé ça pour se rendre intéressant?
Je suis en train de regarder des photos, là, et il y a même une petite plaque, là, commémorative. 1795, c'est les personnes qui sont mortes à la recherche du trésor.
1795, c'est les ados.
Ouais, ça a commencé en 1795, ça c'est...
Ouais, mais il y a eu 6 personnes qui sont décédées entre 1795 puis 1804.
Mm.
Parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'aller là-bas, mais ils sont peut-être tombés dans le trou, ils ont peut-être... Je sais pas. L'histoire ne le dit pas.
Ok. Bah, très bonne histoire en tout cas.
Hum. Mm. C'était bien intéressant.
C'était bien intéressant et très bien raconté. Merci beaucoup en tout cas. On va pouvoir maintenant terminer tranquillement notre épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci à toi, Xara, d'avoir co-animé à la perfection cet épisode avec moi.
Oui.
J'espère que ça t'a plu. En tout cas, concernant le prochain enregistrement, je suis pas sûr encore de le faire en live, car le mois de juin risque d'être très rempli de mon côté. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'habite à Clisson et c'est la ville du Hellfest. Et cette année, le Hellfest, il va durer pendant 2 semaines en juin. Et moi, il faut savoir aussi que j'habite à 800 mètres du festival, donc je ne sais pas encore si j'aurai assez de silence pour pouvoir le faire. On va voir ça. Dans tous les cas, je mettrai à jour la date du prochain live dans le lien qui se situe dans les descriptions des épisodes. Je ferai aussi une annonce sur Discord, hein, Twitter et Instagram. Je vais parler d'Instagram, tiens. J'ai ouvert un petit compte Instagram, c'est RDV Étrange. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. J'y mets des teasers pour les prochains épisodes. Je donne des infos de temps en temps. Donc n'hésitez pas. C'est à peu près tout. En tout cas, Xara, je te remercie encore une fois pour ta participation. C'était vraiment trop trop cool de ta part d'avoir accepté directement la proposition. Et t'es la bienvenue si tu veux revenir n'importe quand. Pas de soucis.
Les gens, si vous avez aimé la formule, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires justement dans l'Instagram. Comme ça, on saura.
Ou sur Discord.
Si vous avez aimé ce soir. Ou sur Discord.
Vous pouvez venir nous voir sur le Discord avant d'aller dormir. On aime bien les retours. Surtout qu'effectivement, comme tu dis, c'est une formule un peu différente. On fait des tests. Et puis, en tout cas, c'était super plaisant à faire.
Oui.
Je trouve ça plus cool de le faire à deux que de le faire tout seul et limite réciter son texte, quoi. C'est plus sympa, quoi.
Très sympa pour moi aussi, et merci de l'invitation, je l'ai vraiment apprécié.
Cool. Je voudrais remercier également tous ceux qui ont sub ce soir sur la chaîne. Il y avait Petit Tabouret du 56, Charline, Indigo, Liliamit, vous êtes vraiment stylax. Pour ceux qui cherchent une autre façon de soutenir ce podcast, vous pouvez faire comme P76, qui le 26 avril a mis ce commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Très bon podcast. Encore une très bonne production de Yop, podcast bien construit et très agréable, je recommande. Merci beaucoup. Maintenant, on va laisser la place à l'After Show, pour ceux qui nous suivent en direct. Et pour ceux qui écoutent en podcast, je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode du Rendez-vous de l'étrange. À bientôt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.